instrument de Léonard de Vinci. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour. Ah, la grande nouveauté, c'est l'atelier en plein air, alors, cette année.
Oui.
Le climat le permet.
C'est-à-dire qu'il y a des fantômes qui ont pris notre place.
Ah, très bien. La salle des gardes est occupée.
Hein?
Oui, la salle des gardes est
occupée par des fantômes.
Alors, vous avez commencé dimanche ici
Dès dimanche matin, oui. Ah, oui, on est installé samedi ici. En fait, on est bien.
On change de lieu, on prend l'air au milieu du canton de Fribourg, David Mestri.
Et avec des instruments, non pas de torture, mais de lutherie tout autour de nous. C'était le début donc de ce stage de lutherie du 11e atelier de musique ancienne de Gruyère.
Un lieu d'exception et une démarche exceptionnelle que celle de cet atelier de musique ancienne. On y construit cette année une lira da braccio.
Exactement, un instrument rare, ancêtre du violon, comme va nous l'apprendre Christian Rau, qui est le maître de ce stage, luthier français, grand connaisseur de toute l'histoire de la lutherie. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Hein,
ça va, nous, ça ne nous dérange pas. Le petit souci, c'est plutôt la lumière qui est un petit peu crue, qui nous tombe du haut.
Ouais.
Et pour voir les reliefs, pour travailler, c'est un peu...
C'est un peu plus
difficile, donc on incline les pièces, on prend le temps de...
Vous avez la lumière le matin et l'après-midi comme maintenant, vous avez donc...
On n'a jamais le plein soleil, on a une lumière diffuse, ça c'est plutôt bien, mais vu qu'elle arrive par le haut, ça douche les reliefs et on n'a pas les reliefs. Mmh. Nous on aime bien les lumières frisantes.
Et vous êtes les quatre alors stagiaires qui faites ça cette année, c'est ça?
Il y a quatre stagiaires cette année.
Voilà, alors vous êtes un des stagiaires, peut-être le plus jeune. Je vais vous laisser vous présenter.
Oui, alors moi je m'appelle Lisanne Paquier. Et puis là en ce moment je suis en train de faire la touche.
Avec un bois assez sombre.
Oui, alors effectivement c'est le même bois qu'on utilise pour les chevilles si je ne me trompe pas. Et puis c'est... un poirier sauvage qui se nomme
Le cormier,
voilà.
Un arbre exotique qu'on trouve chez nous?
Non,
un arbre cormier. Bien du pays, c'est un arbre sauvage d'ici, oui, bien sûr.
Qui donne des poires
Les toutes petites poires sauvages.
Donc un bois de cormier qui est pour l'instant une forme simplement de rectangle qui sera donc sculpté.
Oui, exactement, ouais, on va la travailler pour qu'elle devienne la touche, quoi.
Il a aussi une valeur de résonance.
Le bois de touche, comme tous les bois qui composent un instrument, participent effectivement de la résonance. Et pour les bois de touche, on utilise des bois denses, durs, pour qu'ils résistent à l'usure. Et en même temps, c'est des bois qui sont très sonores. Le son passe très vite dedans.
Mmh. Hein? Il a aussi une qualité.
C'est très compact. Hein, ça fait 87-90 de densité. C'est à la limite de couler. Hein, comme l'ébène, hein, l'ébène coule, lui. L'ébène a une densité plus forte que l'eau. Et là, on est limite. Quoi. C'est un des bois les plus durs qu'on trouve dans nos pays.
Qu'on trouve. Comment est-ce qu'on le cherche, d'ailleurs? On doit voir l'arbre de son vivant pour dire à celui-ci, je vais en faire un instrument quand il sera mort ou...
Non, pas pour des bois comme ceci. Ça, c'est des bois qu'on trouve chez des scieurs ou chez des vieux menuisiers qui ont ça en stock depuis des années, qui savent que c'est un bois précieux, un bois, mais qui n'ont pas eu forcément l'usage ou à qui restent des plots, etc. Et là, c'est un cormier gigantesque que j'ai pu avoir comme ça, en plots de 10 cm d'épaisseur, ce qui est rare pour le cormier, généralement le débit en plus petite planchette, et il avait déjà une vingtaine d'années de séchage quand je l'ai eu, et il est dur, il est beau, bien sûr. C'est le bois qu'on a choisi ici pour faire toutes les pièces qui doivent supporter une usure mécanique, les chevilles, la touche et le cordier, quoi, hein, qui sont des bois qui doivent résister plus que l'érable, le sycomore et l'épicéa qu'on utilise pour le reste.
C'est une pièce de cormier qui est tout entière utilisée par la lira da braccio que vous faites, ou bien est-ce qu'il a des frères jumeaux qui sont des touches d'autres instruments, Christian Rau?
Oui, non, c'est un bois que moi j'utilise à l'atelier, je vous ai parlé de la quantité, c'est des plots de 10 cm et demi d'épaisseur, ça fait 70 ou 80 de large, ah oui. Il y a 3 plots, donc ça fait quand même un certain nombre de chevilles. Hein.
Bonjour. Alors vous avez presque une forme de violon dans les mains, je vous laisse vous présenter aussi.
Moi c'est Jérôme, j'ai effectivement la forme de la lyra entre les mains. Alors contrairement au violon, là elle s'est construite en, en l'extrayant d'une pièce de bois.
Voilà, en creusant, donc, mais c'est les éclisses, donc c'est la partie extérieure de l'instrument.
Voilà, c'est la couronne d'éclisses. Et puis c'est la forme, donc intérieure et extérieure, qui est coupée avec une scie, soit une scie à ruban, bon, pour aller plus vite pour l'extérieur. Et puis ce matin, on a découpé l'intérieur pour laisser seulement une sorte de ruban de la forme du violon ou de la lyra, en l'occurrence.
Vous avez coupé ça avec des scies, avec quels instruments ?
Alors avec pour l'extérieur, une scie à ruban moderne électrique, mais pour l'intérieur, comme on a une forme fermée sur elle-même, on a passé la scie à l'intérieur, une scie à l'ancienne en forme de H majuscule qu'on a tiré et poussé chacun d'un côté avec l'isantre tout à l'heure, pour simplement sortir le milieu de la forme, comme pour vider un O.
Ça ressemble beaucoup à une forme d'alto d'aujourd'hui par ses dimensions. Hein. C'est donc vraiment un instrument qui est peut-être à l'origine des violons d'aujourd'hui.
Effectivement, c'est un peu l'ancêtre du violon. Après, pour les tailles, ça, je ne saurais pas vraiment répondre. Il faudrait demander à Christian.
Ce qui est différent, c'est le manche dont on voit une partie qui est aussi sur le même instrument, qui se termine en une sorte de goutte et qui donne un peu l'aspect plus ancien à l'instrument.
Exactement, le chevier est différent. Il a une forme médiévale et il a été modifié par la suite, par l'inspiration du oud, ce chevier qui part en arrière et qui a les chevilles sur le côté. Là encore, on a des chevilles qui sont plantées sur le devant de l'instrument.
Comme une guitare électrique, en fait, ou comme une guitare moderne aussi.
Sauf qu'elles viennent sur le devant de l'instrument, sur une guitare moderne, elles sont quand même derrière. Oui. Et puis ça, c'est une des grandes différences entre cette lira da braccio et le violon moderne. En plus de la façon de le construire, qui a beaucoup changé, qui se fait maintenant donc, en pièces détachées, pièces cintrées à chaud et puis assemblées, alors que là, on coupe le tout dans la masse pour avoir le pourtour, le profil.
C'est une manière plus primitive ou bien ça a d'autres avantages ?
C'est effectivement une manière plus primitive, pas simple non plus à réaliser, parce que ça devient une sorte de ruban relativement fragile, qui fait dans les 3 mm d'épaisseur à terme. Mais c'est vrai que ça a été remplacé ensuite par le cintrage des éclisses, qui a été apporté par la civilisation arabe. Et avant ça, on ne connaissait pas ça en Europe, et on taillait tout dans la masse.
Et vous, Jérôme, vous avez des connaissances alors, en histoire de la lutherie, ou vous êtes novice dans cet art-là, vous venez de faire ce stage de lutherie par passion ?
Oui, alors moi, c'est la troisième fois que je fais ce stage, donc au fil des ans, on prend quelques connaissances. Et puis sinon, oui, c'est un petit peu un hobby, mais j'ai pas énormément de connaissances.
Et vous faites des instruments en dehors des enceintes de Château de Gruyère l'été ?
Alors, vous voyez, de chez moi, j'ai monté un petit atelier, puis j'ai fait un luth pour moi. Puis j'essaie de le jouer, mais c'est pas encore tout à fait au point.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous laisse vous présenter.
Je suis Stéphane Ehrenschwand. Et puis, je suis avec beaucoup d'intérêt ce cours, qui est en français.
C'est la première fois que vous faites de la lutherie ?
Non, c'est pas la première fois. Je travaille dans un atelier un jour par semaine pendant 4 ans. Et puis c'est Pierre-Louis qui m'apprend un peu la lutherie. Oui.
Donc de violon plutôt, c'est plutôt des violons, des violoncelles que vous avez l'habitude de voir.
Oui, des violons. Et puis j'ai fait pas mal de réparations. Et j'ai commencé mon premier violon maintenant. Et puis j'apprends beaucoup ici. Hein.
Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est familier avec la lira da braccio et sa
facture. Non, moi non plus. J'ai vu sur des tableaux à Venise, et puis j'ai lu un peu, et maintenant, je peux voir comment on le fait. Hein.
Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler maintenant ?
Moi, je suis en train de faire des repos.
Des pièces rectangulaires aussi.
Mais ce n'est pas pour l'instrument, c'est un outil que je fabrique maintenant.
Ah. Dans le même bois, c'est de,
oui.
C'est de l'épicéa.
Les premiers jours, j'ai fait ça, avec la voûte et tout ça.
C'est la table de l'instrument ?
Non, c'est le fond. Ouais. C'est un érable aussi. Et puis maintenant, il faut enlever.
Il faut le creuser, voilà.
Oui, il faut le creuser. Et pour pouvoir presser et avoir la stabilité.
J'ai fait deux pièces qui vont servir à serrer l'instrument.
J'ai fait ces deux pièces. Oui.
C'est une sorte de puzzle, finalement.
Oui.
Oui. Et après, vous allez prendre alors les ciseaux pour creuser ça tout doucement ?
Tout doucement, oui.
Oui. Parce qu'il n'est pas déjà pas très large, il a dit.
Oui, c'est plus tellement large. Et puis, il faut faire attention. Hein. Mm. Ouais. Je ne sais pas encore si j'arrive à faire. Hein.
D'accord. Ce sera le seul ou il y a plusieurs. Il y en a plusieurs qui seront essayés en même temps, je ne pense pas.
Oui, de temps en temps, on change un peu, mais. Mm. Mais c'est plutôt lui qui a fait tout autour. Mm. Et puis, c'est moi qui a fait ça.
Ouais. Très bien, bonne suite alors. Merci.
Merci beaucoup.
Bonjour, alors là on est devant le plan et vous êtes la dernière des stagiaires là.
Oui.
Une jeune dame aussi qui s'intéresse à la lutherie depuis longtemps.
Pas spécialement depuis longtemps, non, mais je joue du violon en fait depuis 3 ans.
Très bien, et donc c'est la première fois que vous participez à un stage où vous travaillez le bois.
Oui, tout à fait.
Alors, que peut faire on peut, quand on est novice aussi, s'intégrer à une équipe comme ça et puis participer à la construction d'instruments. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ?
Alors oui, on peut, mais c'est clair que ça va beaucoup plus lentement, donc on n'est pas très productif. Mais là, j'ai fait cette pièce-ci qui est le cordier, en fait, où s'accrochent les cordes sur le bas du violon.
Qui est aussi dans le bois dur, dans le poirier sauvage.
Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il a fallu raboter ici. Donc j'ai appris ça aujourd'hui. Et puis j'ai commencé à faire une cheville aussi avec Philippe.
Très bien. Alors ce plan, ça rappelle celui de vos instruments, mais après le résultat final sera assez différent d'un violon. Vous avez déjà essayé de jouer une lira da braccio ou quelque chose comme ça? Ça vous donne envie?
Oui, ça me donne envie. Ça, je ne l'ai encore jamais fait.
On en apprend beaucoup cette semaine dans Musique en mémoire sur cette lira da braccio, puisque nous assistons Christian Rau, le luthier, dans la construction de cet instrument lors du 11e atelier de musique ancienne de Gruyère.
Christian Rau, donc ce plan, il est d'après un modèle qu'on trouve dans un musée.
Ce plan a été tiré d'une peinture de Vittore Carpaccio, qui date de l'année 1500 précisément, bien évidemment en tenant compte de tous les antécédents et des instruments que l'on possède dans les musées qui sont conservés, notamment à Vienne et à Bruxelles. On a des lira da braccio qui sont conservés.
C'est la première fois que vous mettez en chantier un instrument comme ça ?
Non, les lira da braccio, j'ai déjà construit quand même un certain nombre. On aura probablement l'occasion samedi au concert d'en entendre une, exactement du même modèle d'après la peinture de Vittore Carpaccio.
Alors on utilise ce modèle parce que c'est un peintre qui était très fidèle à la réalité, parce que c'est un instrument qui est splendidement sculpté. Quelle est la raison ?
La peinture est magnifique, l'instrument est splendidement dessiné et comment dire, en matière d'iconographie musicale, puisque là on s'inspire d'une peinture et non pas d'un instrument conservé dans les musées, c'est que la lira da braccio, c'était vraiment l'instrument des intellectuels de la Renaissance et notamment des peintres et de tous les artistes. C'est un instrument qui servait à soutenir entretenir l'improvisation poétique, les joutes poétiques, les déclamations. Et on peut faire un parallèle entre la lira da braccio dans les ateliers des peintres de la Renaissance et la guitare qui se trouvait dans les ateliers de Picasso, de Braque, etc. au début du siècle passé. À tel point qu'un peintre comme Leonardo da Vinci était d'abord connu comme musicien, joueur de lira da braccio avant d'être reconnu comme peintre. Hein? Timoteo Viti jouait la lira da braccio. Raphaël jouait la lira da braccio. Et ces peintres connaissaient si bien cet instrument qu'ils pratiquaient tous les jours que sur un grand nombre de tableaux, on peut même relever les accords que joue le musicien selon la position des doigts. Hein? Ils en connaissaient parfaitement les proportions, le dessin géométrique, la conception et la maîtrise en tant que musicien. Donc c'est un instrument qu'ils appréciaient particulièrement et donc dont la représentation était particulièrement soignée et à laquelle on peut effectivement se référer.
Un instrument de haut de gamme alors pour l'époque un peu, au contraire de ce qui deviendra le violon après qui est plutôt l'instrument du peuple.
Oui, enfin, le violon comme instrument du peuple, ça mérite d'être remis un petit peu au point.
D'accord. Alors on
Et là, la lira da braccio n'est effectivement pas un instrument du peuple non plus. En fait, la lira da braccio, c'est la dernière version de la vielle médiévale. C'est exactement les mêmes procédés de construction. C'est le même type d'accord, c'est une forme, comment dire, la vielle médiévale qui existe déjà depuis 5 siècles dans les années 1500, a pris en gros 3 formes différentes, mais avec toujours les mêmes principes et la même technique de jeu et la même esthétique sonore. Dans les périodes romanes, on a un instrument qui a une forme de poire, on dit piriforme. Ensuite, dans la période gothique, c'est un instrument ovale, mais le cordage, l'accord, reste le même. Et dans les années 1500, particulièrement en Italie, l'instrument prend sa forme, on va dire, gothique flamboyant, hein, avec des formes exubérantes, hein, beaucoup plus exubérantes que la vielle médiévale, mais elle va garder encore une fois la même nature, avec une esthétique plus étendue, plus raffinée, puisqu'elle va prendre 2 cordes supplémentaires. Au lieu d'un seul bourdon sur la vielle médiévale, il va y avoir 2 bourdons extérieurs aux manches, parce que dans la lira, on a 5 cordes sur la touche et 2 bourdons extérieurs à la touche. Hein, et alors que dans la vielle médiévale, on a 4 cordes sur la touche et un seul bourdon. Et donc, il y a également une corde qui est rajoutée sur la touche, qui est en fait l'octave de la corde sol grave.
Et quand on parle de la vielle, on imagine souvent un instrument qui est joué plutôt verticalement,
du tout. C'est da braccio.
Déjà.
Comment dire, les instruments da gamba, à part l'exception de la gigue au XIIIe siècle, XIIe et XIIIe siècle, ce qu'on appelle aussi la vielle en 8, qui est le seul instrument médiéval qui est joué da gamba, tous les instruments sont des sopranes da braccio.
Hein? Les rebecs aussi, c'est l'instrument.
Le rebec da braccio, évidemment. Hein? Mais le rebec, encore une fois, n'est pas un instrument médiéval. C'est un instrument renaissance et pré-baroque. Contrairement à ce qu'on a pu penser à une époque, il n'y a pas de rebec au Moyen-Âge, en tout cas pas avant la fin du XIVe siècle, période à laquelle apparaît son propre nom. Hein?
On le posait alors sur l'épaule, un peu à la manière des violonistes d'aujourd'hui,
alors
ou un peu plus bas.
On voit des tenues différentes. C'est pas vraiment la tenue du violoniste d'aujourd'hui qui le tient, soit pour les violons modernes coincés entre la mâchoire et l'épaule, soit posé sur l'épaule à la façon du baroque. C'est parfois posé sur l'épaule, souvent posé beaucoup plus verticalement sur le dessus de l'épaule, et le plus souvent le bas de l'instrument, la partie du cordier, a non pas une forme pleine arrondie, mais souvent une forme, pardonnez-moi, mais de poire ou de fesse. Cette forme géométrique particulière permet de le rentrer plus facilement dans le cou et de jouer da braccio des instruments de grande taille. Mais là, on est sur un instrument d'une taille à peu près normale pour un braccio, puisqu'on est sur l'équivalent de 42 cm de longueur, c'est-à-dire on est sur un alto de taille normale, hein, en fait.
On utilisait quelle sorte d'archet pour frotter ces 7 cordes que va avoir la lyre ?
Alors, c'est des archets assez longs. Un peu pesant, un peu, enfin en tout cas en diamètre optiquement, c'est des archets qui ont un diamètre supérieur aux baguettes de violon que l'on connaît, mais c'est aussi parce que le bois utilisé était un bois d'une densité différente de celle utilisée aujourd'hui qui est le pernambouc, un bois moins dense comme l'if par exemple, et pour obtenir des résistances qui vont bien, on est sur des diamètres qui tournent autour de 9 mm, 10 mm à la hausse, hein, ce qui est nettement supérieur aux baguettes de violon moderne.
Vous allez faire un archet ici ou il est déjà prêt pour jouer cette lyre ?
C'est pas prévu, mais je pense que l'archet qui a été réalisé il y a 2 ans de l'alto de l'école alémanique n'est pas si éloigné que ça de l'idéal de l'archet pour la lyre da braccio. J'espère qu'on aura le temps de corder l'instrument et de pouvoir l'essayer.
Donc il n'y a pas autant de révolution que ça dans l'histoire de ces instruments et des archets, puisqu'on peut jouer marché du 18e ou du 17e.
Ah non, l'école alémanique, on est au tout début du 17e. Hein.
17e,
hein, et là, on est un siècle plus tôt.
À peine.
Mais l'école alémanique conserve des caractéristiques, j'allais dire, rustiques, qui est des toutes origines du violon. On peut rapprocher de l'école de Brescia, notamment, et on est quand même encore sur des esthétiques. Ce sont des instruments qui avaient une barre centrale. On n'a pas encore le système acoustique intérieur des viols et des violons que l'on connaît aujourd'hui. Et on est encore sur des esthétiques, j'allais dire, antiquisantes, anciennes.
Hein. Et quand on parle de rusticité, Jérôme a montré effectivement que là, les églises sont taillées dans une seule pièce, donc creusées. C'est la grande révolution, ça, dans le violon, dans les fameux luthiers italiens, c'est de faire des pièces à l'oriental en collant et en pliant le bois.
Exactement. Quand Isabelle d'Este commande des lira da braccio, en fait, tous les instruments en Italie, on peut dire en Europe en général, tous les instruments à cordes frottées, jusque dans les années 1500, sont construits dans une masse de bois. Et c'est l'apport espagnol, en tout cas catalan, aragonais et valencien, qui va arriver en Italie par l'intermédiaire des Borgia, qui va être nommé pape dans ces années-là, un petit peu avant, les années 1480-90, si ma mémoire est bonne. Et Borgia amène d'Espagne sa cour, ses musiciens. Et les musiciens espagnols pratiquent, c'est à la mode depuis quelques décennies seulement, la bihuela, qu'elle soit d'amano ou d'arco. Et ces bihuelas ont la particularité d'être beaucoup plus grandes que les instruments connus jusqu'à présent en Europe et d'avoir des éclisses qui sont pliées au fer, effectivement, comme on l'utilisait pour les luttes dans la même région depuis le XIIIe siècle. Et c'est la grande révolution qui va arriver en Italie. Et donc lorsque Isabelle d'Este, qui est fascinée par ces grands instruments, les vihuelas, la spagnola, mais ça c'est magnifique, on n'a jamais vu des instruments aussi grands, elle va commander à son luthier une bihuela, la spagnola, et à la même époque, elle fait réaliser son cabinet dans son palais, et dans son cabinet, elle fait des marqueteries, elle fait faire des marqueteries de ses instruments, et on a ces bihuelas à la spagnola, réalisées par son luthier, avec les éclisses monoxyles, enfin taillées dans une seule pièce de bois. Je peux vous montrer les documents, ils sont ici. Et c'est très amusant de voir qu'il va falloir encore attendre plusieurs décennies avant que les Italiens se mettent, et ça va tarder beaucoup, se mettent à adopter cette nouvelle technique et finissent par l'adopter d'une façon magistrale par Andrea Amati, qui va les relier avec des tasseaux, qui va monter des contre-éclisses à l'intérieur, etc. et qui va créer les premiers modèles de violons aboutis.
La lutherie moderne, si on veut.
Voilà, les fondements de la lutherie moderne.
Ouais. C'est beaucoup plus simple, finalement, non, d'avoir des pièces que l'on colle et que l'on peut travailler l'une après l'autre.
C'est une conception différente du travail et même du monde et de l'univers. Voilà. Il y a la conception, j'allais dire, globalisante, analogique du Moyen-Âge, qui est orientale, en fait, hein, où les choses font partie d'un tout, et donc on creuse, lorsqu'on veut un corps creux, on le creuse dans une masse. Et puis, il y a un autre esprit, l'esprit analytique qui naît à la Renaissance, où on se met à décortiquer les pièces, à les séparer les unes des autres, à les analyser individuellement, ce qui fait faire des progrès magnifiques en médecine, en mathématiques, ça fait faire des progrès magnifiques. Et du même coup, on se met à concevoir des instruments. On passe de 3 pièces à 97 pièces.
Alors on passe d'une âme à un corps de 200 ciseaux, un peu comme vous faisiez le parallèle avec la médecine, un peu, c'est ça
On passe d'un corps qu'on soigne intégralement, c'est-à-dire que si vous avez mal au foie, on ne va pas vous travailler le foie, on va considérer qui vous êtes, quelle est votre vie, dans quel milieu vous vivez, etc. On va vous soigner globalement. Alors qu'à partir de la Renaissance, on commence à pratiquer la chirurgie, à observer les organes séparément les uns des autres, à essayer d'intervenir de façon séparée, oui, tout à fait.
C'est pas le plus médiéval non plus. C'est un tour. Ça, c'est l'une des chevilles alors.
Oui, c'est le départ. C'est le départ. C'est vraiment le gros bloc de bois. Étape numéro 1. Numéro 2.
Voilà, donc le gros bloc de bois de 30 cm.
Le cormier.
Cormier, voilà, c'est le poirier sauvage. Splendide, hein. Et puis après, ça devient une sorte de cheville carrée, encore assez grossière. Ensuite, on l'a fait tourner sur ce tour pour la raboter, pour la cisler.
Ça devient cylindrique.
Mm-hmm. Tournage dans tous les sens. À l'époque, on pédalait pour faire tourner le bois. C'est ça,
mais absolument.
Philippe Montet. Oui, voilà. Vous avez du vélo en même temps.
Oui, je crois que c'était pareil pour coudre. Il y a toujours des gens qui font du tournage naturaliste, comme ça, ou bio, du tournage bio,
comme ça. Oui. Dans la lutherie aussi.
On a eu une édition à lutherie. Andreas Korczak qui travaillait avec beaucoup de respect pour les méthodes non électriques, non électriques. Et on n'a pas employé le tour, effectivement. Avec lui, on a taillé les chevilles au canif.
Plus joli bruit que le tour.
Et quoique là, ça ne sonne pas encore parce que les épaisseurs sont pas. On est sur la voûte extérieure.
Avec un mini rabot. C'est un rabot de luthier que d'autres artisans du bois utilisent.
Non, même les sculpteurs, ils utilisent. C'est vraiment spécifique au luthier.
3 cm à peine.
Oui, celui-ci, c'est un gros encore. On en a qui font la moitié. Hein.
Ah oui. Ouais.
Pour le violon, quand on fait la gorge, une fois qu'on a posé le filet, on a un tout petit rabot qu'on appelle la noisette. Et là, on arrive à la forme finale de la voûte.
On va creuser l'autre côté alors.
Et après, voilà, le fond est prêt. Il est là-bas. Et il est prêt, lui, à être, on dit défoncé, c'est-à-dire on se met à creuser l'intérieur. On va faire après les épaisseurs qui conviennent. Un instrument qui n'a aucune structure interne, c'est-à-dire pas de barre, pas d'âme. Donc il faut que les épaisseurs.
C'est très fine, alors pour que ça résonne bien.
Il faut à la fois que ce soit très fin pour bien résonner, mais comme on n'a pas de renfort interne, il faut en même temps que ça tienne. Là, il y a une tension qui va être de l'ordre de 37 à 40 kg. Et on va se retrouver avec des épaisseurs de 3 mm, 3 mm et demi, bon, jusqu'à 4,5, 5,5 à certains endroits.
Alors, il faut de la bonne colle ou comment est-ce qu'on fait tenir ça comme ça?
Il n'y a pas de colle, ben non. Ah, de la bonne, évidemment que la table est collée sur les éclisses, mais il n'y a aucune colle qui est utilisée. C'est-à-dire qu'on est sur une voûte, comme une voûte romane architecturale, et il n'y a pas de poteau au milieu. Quoi, hein. Il faut que la voûte tienne la masse qui est au-dessus. Voilà. En souplesse, contrairement à l'architecture. Parce que là, il faut qu'elle vibre, il faut qu'elle bouge. Voilà, on arrive quasiment à la fin.
C'est toujours à l'œil, ça. Hein. Vous mesurez de temps en temps l'épaisseur.
Le sommet de voûte est 17,5.
Là, vous ne rabotez plus. Hein.
Là, on n'y touche pas. Les bords ont été mis à l'épaisseur correcte, à la 3,5, sur une bande de 1,5 cm de large, à peu près, qui va correspondre à la finalisation de la voûte. Donc, ensuite, on fait la quinte, ce qu'on appelle la quinte, c'est-à-dire la voûte. On dessine l'allure longitudinale de la voûte. Et donc, cette ligne longitudinale de la voûte nous donne le point de départ d'une architecture qui doit se terminer tout autour du contour de l'instrument, dans toute sa complexité, parce qu'il y a des endroits qui sont plus étroits, plus larges. Et toutes les forces qui sont centralisées ici sur le point du chevalet, qui est la première chose qu'on note, qui est le sommet de la voûte, hein, toutes les forces qui vont être canalisées ici, qui vont écraser la table à cet endroit-là, doivent se répandre de façon régulière sur l'ensemble du pourtour, à l'exception de la partie qui est derrière les ouïes, qui elle libère une zone centrale dans la table, qui est où il y a l'appui du chevalet et les ouvertures des ouïes de chaque côté, et on peut appeler cette partie-là le moteur, c'est-à-dire c'est de là que la vibration va se répandre, c'est là qu'elle va se créer et c'est à partir de là qu'elle va se répandre.
Les ouïes de cette lyre, elles auront quelle forme ?
Là, c'est une forme de C un peu particulière, le C des ouïes du Moyen-Âge, mais avec une bande bien tendue entre les deux trous. Il y a deux trous circulaires qui sont rejoints par une ligne droite, par leur centre, et une demi-lune de l'autre côté, quoi. C'est ça l'allure de ces ouïes de la lyra d'Abraccio.
Ça a un sens symbolique, la forme de l'ouïe ?
Alors, il y a des discours là-dessus. Le meilleur que moi j'ai entendu, le plus convaincant, c'est que tout simplement, c'est quelque chose qui a été découvert sur le portail de Moissac, où finalement.
Cathédrale.
Oui, c'est ça. Où les différentes ouïes des instruments correspondent en fait à B, C, D, E, F, G, H, au nom des notes. Et on peut penser que le F du violon, c'est aussi le Fa, c'est aussi ça, ou que le C de la viole de gambe, encore aujourd'hui, c'est aussi ça. Voilà.
Mais on n'a plus beaucoup de E ou de B. En fait.
Les B sont disparus complètement, on en a eu beaucoup au Moyen-Âge. Oui. Ouais, toutes les giganes, notamment ces vielles qui étaient jouées d'Agamba, avaient des ouïes en forme de B. Et des vielles médiévales aussi, notamment à Saint-Jacques-de-Compostelle, ont des formes de B majuscules. D, c'est une demi-lune aussi. C et D, c'est en fait la même graphie. F.
E, c'est plus compliqué.
E, c'est plus compliqué, ça dépend comment on l'écrit, oui. Mais ça fait une goutte, en fait, hein, une goutte d'eau quand une grande. On a aussi des ouïes de cette forme-là. Mais il y a une belle théorie là, qui a été soutenue là-dessus, puis qui fonctionne bien, en tout cas à Moissac, et sur la. Oui, on peut. Voilà.
Le biberon, c'est pour la construction de l'instrument.
C'est le biberon de Manon que j'ai récupéré pour faire un affûtage avec le pétrole et l'huile mélangée. Elle m'en veut encore.
Elle peut faire un peu les verser
parce que plus jamais elle pourra
têter un biberon.
Ouais. Les chocolats chauds là-dedans. C'est très pratique.
Ça
me rappelle des souvenirs.
Ça, c'est le cordier. Hein.
La touche. La touche que tout à l'heure, c'était le morceau rectangulaire.
Oui.
Ça y est, on a le profil et la largeur et les largeurs définitives.
D'accord.
Et ça va venir s'encastrer dans la couronne des cuisses.
La couronne, donc le bloc du milieu a été enlevé. Ça ne sert à plus à rien. Ça va être jeté après.
C'est un gros copeau. Ça sert pour couper les fromages et le saucisson.
Ah oui, ça va être une belle planche en forme de lyra. Christian Roux me disait que les origines du violon ne sont pas aussi modestes qu'on peut l'imaginer, un instrument du peuple comme on le voit dans l'Italie baroque. Non, c'est pas
non,
le cas.
Non, le développement du violon est effectivement lié à la danse, mais pas du tout aux danses populaires comme on peut les voir dans les tableaux flamands du XVIIe siècle. Au XVIe, c'est une nouvelle forme de danse de cour. que le violon est associé. Andrea Amati, le créateur du violon définitif, travaille pour les cours. Il a une commande de Catherine de Médicis pour Charles IX, de 30-40 instruments. Il ne travaille pas pour les gens du peuple. C'est des instruments extrêmement sophistiqués, extrêmement précieux. Hein. Et on n'a pas, je ne connais pas en tout cas, de représentation, par exemple, de fêtes populaires au violon au début du XVIe siècle. Hein, les premières figurations de violon que l'on a, ce qu'on appelle les proto-violons à partir des années 1520, notamment à Vercelli ou dans tout, les autres peintures de l'époque, des premières décennies du XVIe siècle, c'est toujours des anges qui tiennent compagnie à la Vierge, qui jouent le violon, et même ce qu'on peut appeler aujourd'hui le violoncelle, puisque dès les années 1530, on a des instruments de la taille du violoncelle tenu. Pas grand-chose à voir avec un instrument qui serait un instrument vulgaire du peuple, ou qui serait un instrument des fêtes païennes, des orgies et des beuveries.
Hein. Par contre, c'est l'héritier direct de la lyre.
Alors, il y a le violon, c'est que compliqué, parce que c'est effectivement un héritier direct de la vielle médiévale et donc de la lira da braccio, de par notamment son accord, puisque la lira da braccio a 7 cordes, dont les 4 cordes sur le manche sont accordées, sol, ré, la, ré, que l'on peut transformer en sol, ré, la, mi, accord du violon. Hein, de par ça, déjà, les 4 cordes, elles sont doubles sur la lira da braccio. Hein. Là où ce n'est plus du tout la même chose, c'est dans l'esthétique et dans la technique de jeu. La lira da braccio est encore sur l'esthétique ancienne qui développe le champ harmonique, c'est-à-dire qu'on joue sur un maximum de cordes, on va rechercher partout et tout le temps les consonances. Le chevalet est très plat, on joue toujours 2, 3, 4 cordes en même temps, et en plus le bourdon extérieur que l'on peut percuter avec le pouce ou avec l'archet aussi, alors que le violon est sur une esthétique totalement monodique. La révolution, ça a consisté à passer d'un instrument harmonique, d'un instrument qui produit beaucoup de notes à lui tout seul, à un ensemble d'instruments qui produiront chacun une seule note. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans l'amour et dans le goût de la polyphonie, mais au lieu d'avoir la polyphonie avec un seul instrument, la lyra, on passe à la polyphonie avec 4 instruments monodiques.
Avec un chœur d'instruments.
Avec un chœur d'instruments semblables, similaires, avec des tailles différentes. Et toute la recherche du violon, ce qui justifie et explique aussi sa structure intérieure, son architecture intérieure, c'est la recherche d'un son monodique, étroit et projeté très loin. Alors que la lyra da braccio a un son très large, qui ne projette pas très loin, mais qui a un champ harmonique quasiment infini. C'est ça la
grande révolution.
La grande révolution.
Puis ensuite, il y a l'arrivée du violon en France, qui sera justement un peu vu par les violistes comme une invasion, et c'est peut-être là aussi qu'on l'a un peu décrit.
Oui, on est déjà un petit peu plus tard.
Oui.
Comment dire, quand le violon arrive en France, bien sûr, il y a un hypothétique Tiefenbrücker ou Dufaux-Prugard qui était installé plus ou moins du côté de Lyon à une époque. Dès les années 1520, on a des quelques témoignages. Il y a tout ce qui se passait du côté de Fussen aussi, qui est loin d'être à négliger.
C'est un grand centre de lutherie au sud de l'Allemagne.
Très grand centre de lutherie au sud de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'en Italie, à cette époque-là, 70% des luthiers étaient des Allemands immigrés, parce qu'il y avait la famine et il y avait des problèmes là-bas, et qui faisaient des luttes. C'est pourquoi on a appelé les faiseurs de violon, on les a appelés des luthiers, pour la joie de Madame Di Philippe.
Qui est un luthier de lutte.
Lui. Voilà, qui est un luthier de lutte. Voilà, qui est un vrai luthier, contrairement à nous, qui sommes que de pauvres violoneux. Et donc, les premiers violons qui sont arrivés en France sont arrivés par la cour. Hein. Et effectivement, ils sont venus déranger très vite, parce qu'ils ont pris une telle place qu'effectivement, les viols ont été dérangés, effectivement, par les prétentions, les prétentions du petit violon.
Sultan violon, je me souviens, vers le blanc.
Il y a le titre, je crois, du bouquin de l'abbé Sibir, contre les prétentions du petit violon. Je ne sais pas comment, il y a de son acolyte le violoncelle, quelque chose comme ça.
Et la viole, elle était encore dans l'esthétique de la lyre, finalement, d'un instrument harmonique.
Alors voilà, la viole et le violon ont en commun l'adoption des nouvelles techniques de pliage d'éclisse et de construction de la caisse d'harmonie. Mais effectivement, avec son accord en quarte et en tierce, la viole poursuit plus fidèlement l'esthétique très ancienne d'un son harmonique, polyphonique, enfin, je veux dire, d'un instrument beaucoup plus large au niveau du son.
Ce qui se perd aussi, Christian Rowe, c'est la nomenclature. Le mot lire, lira, n'a pas de successeur dans l'organologie.
Déjà, c'est une invention de l'époque, puisque, c'est une réinvention de l'époque, puisque, en fait, il s'agit de la vielle médiévale, sous sa forme gothique flamboyante. On est dans une période, en Italie, à cette époque-là, où l'Antiquité reprend. Et c'est à la fois un truc à double sens, le fait de l'appeler lira, c'est-à-dire de reprendre le terme grec. C'est à la fois, bien évidemment, une allusion aux anciens Grecs, à la culture des Grecs, mais aussi à l'ancienneté, quelque part, de la vielle médiévale, qui, à part en Italie, était devenue désuète dans la plupart des autres pays déjà. À partir de la fin du XIVe, il y a tous les nouveaux instruments qui arrivent, par l'influence d'Al-Andalus, le renouveau des cordes pincées, tous les instruments, toutes les formes de nouveaux claviers qui commencent à se mettre en place, les harpes, les luths qui prennent le dessus de la vielle médiévale. Et en Italie, curieusement, l'iconographie de la vienne médiévale perdure non-stop jusqu'à la naissance de la lira da braccio.
Qui est un instrument quand même typiquement italien, puisqu'il a ce nom.
La lira da braccio, oui, on peut dire que oui. D'ailleurs, en fait, je ne connais même pas de lira conservée qui ne soit pas d'auteur italien. Et c'est effectivement spécifiquement une esthétique, un instrument, une fonction musicale vraiment spécifique à l'Italie de la Renaissance.
Au nord de l'Europe, on ne frotte pas d'instruments, de cordes d'instruments tenues sur le bras à cette époque.
Effectivement, la vielle médiévale, comme je vous le disais juste avant, est quasiment disparue des pratiques musicales depuis la fin du XIVe, le milieu du XIVe siècle. C'est une période de transformation radicale de tout. Je veux dire, la société s'effondre, les valeurs s'effondrent, la religion s'effondre, le pouvoir s'effondre, l'agriculture est dans une série d'épidémies, de famines, de guerres. C'est l'enfer, cette période, c'est l'enfer. Jusqu'en 1500-1550, on assiste à des mouvements de population. Moi, je fais souvent le rapprochement entre cette période et la période que l'on vit actuellement, où les valeurs de l'ancien monde s'effondrent et où les nouvelles valeurs n'ont pas encore, elles sont là, on les sent, on les connaît déjà, mais elles n'ont pas encore les moyens d'aboutir. Et c'est un peu ce qui se passe à cette époque-là, où les humanistes avancent les idées qui vont faire le 17e, qui vont faire le siècle des Lumières, qui vont faire la révolution industrielle, finalement. Mais ils n'ont pas encore les moyens, la voie pour aboutir.
Leonardo n'a pas encore les moyens de faire un hélicoptère comme il en dessine.
Voilà, exactement.
Il joue de la lira, il n'a pas laissé de plan pour en construire.
Alors, il n'a pas laissé de plan. Curieusement, Leonardo, qui était connu comme un excellent musicien, joueur notamment de lira, à ma connaissance, ne nous a pas laissé un seul dessin ou peinture de lira. Par contre, on a un très beau dessin de lui, d'une viola da braccio, qui, elle, est vraiment le proto-violon. C'est-à-dire que on est toujours sur les modes de construction médiévaux, mais on n'a plus que 4 cordes. Et on en a une de conservée à Vienne, par exemple, une viola da braccio, qui a ce même procédé de construction que la lira, mais qui n'a plus que 4 cordes, un chevalet bien courbe, et on comprend déjà que cet instrument est conçu pour la monodie et plus pour...
Pour la polyphonie avec les bourdons, la lyre, qui est aussi une esthétique où on ne module pas finalement, puisqu'où on doit réaccorder l'instrument.
Bien sûr. Le bourdon, c'est en fait une des dernières réminiscences de la technique orientale des instruments archets. Il ne faut pas oublier que l'archet est arrivé d'Orient, pour simplifier, en gros d'Asie centrale, pour les certitudes. En tout cas, il a transité par le monde musulman, c'est par là qu'il est rentré le plus vite en Europe chrétienne, et à l'époque, et toujours, tous les instruments orientaux sont joués sans touche. On digite directement sur les cordes. Et en Occident, c'est une technique qui a perduré à travers un seul instrument, 12e et 13e siècle, c'est la giga, c'est la vielle en 8, justement, dont on parlait, le seul instrument joué d'agamba, avec une technique de digitation directe. Sinon, tout de suite, la vielle médiévale d'abraccio, avec sa touche, s'est imposée pour toute la musique profane, la musique de plaisir, la musique, y compris la musique profane, ça ne veut pas dire que ce n'est pas savant. Et donc, les bourdons extérieurs de la lyra sont une réminiscence, enfin une perdurance de cette technique de digitation directe, car sur les bourdons extérieurs, le pouce, elles sont placées à telle distance du pouce que le pouce peut faire le demi-ton ou le ton supérieur déjà, ce qui permet de passer d'une tonalité à une autre en cours de jeu. Le bourdon est sollicité avec le pouce, on peut faire dong, 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 tout en faisant la mélodie. On a deux bourdons qui nous permettent de changer éventuellement de tonalité. Et les bourdons sont vraiment une chose active. C'est pas que ça file fiche dans une tonalité, mais ça permet de faire beaucoup de choses.
Et Christian Rau, le répertoire pour la lira d'abraccio, il nous est conservé. On a des pièces qu'on sait ça devoir être joué sur cet instrument.
Oui, on a des choses. Je pense que le mieux, ce sera de poser la question aux musiciens qui le jouent intensément et qui ont recherché tous les répertoires pour ça. Il y a Dissertori qui a déjà, vous avez le témoignage ici, là, qui a déjà dans un premier temps repéré une quantité de musique particulièrement destinée, ou en tout cas particulièrement conveniente sur le type d'accord et l'esthétique de la lyra. Il a même repéré les accords. Quand je vous disais que les peintres connaissaient bien cet instrument, les positions des doigts sur la touche correspondent toujours à des accords qui ont été disséqués par Dissertori et dit voilà, là on accordait comme ça et c'était l'accord.
Une lira d'abraccio, un instrument rare, une lira d'abraccio, ça se construit et ça s'écoute, David Maestri.
Et rares sont les interprètes qui savent la manier. Ici, c'est Frédéric Martin qui s'entraîne pour le concert final de cet atelier gruérien. Ce sera pour la fin de la semaine. Oui. Frédéric Martin à mon micro. Demain, on retrouvera l'atelier. Mais pour la fin musicale de ce deuxième épisode, je vous propose, Jean-Luc, d'écouter l'ensemble Douce Mémoire où Frédéric Martin tient la lira d'abraccio dans des musiques du temps de Leonardo. Thank you.
semble douce mémoire pour ces musiques qui contiennent cette lyra d'abbraccio que nous retrouverons demain, je dis retrouverons, que nous continuerons de construire, grâce à vous David, demain.
Il faudra assembler les parties qui ont déjà été sciées.
À Gruyère, dans le cadre de cet atelier de musique ancienne, merci David Mestri, on se retourne et on salue Didier Rossa pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production, musique en mémoire, proposition de Jean-Luc Rider. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.